Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones.
Un frais salé, c'est le cépage endémique de notre appellation.
Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue.
Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche.
Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. Bien qu'il ait grandi dans une famille de vignerons du Sancerrois, Luc Tabordet exerce sur l'appellation Reuilly. Pour autant, c'est sur une autre AOC qu'ainsi que son domaine et son chai ont trouvé refuge. Le choix de l'indépendance et de la liberté. Luc Tabordet, domaine Tabordet, vigneron 100% Centre-Loire.
C'est, voilà, le siège social il est ici du fait que le domaine Marton, c'est l'origine du domaine. Et donc le siège est le lieu d'habitation et de création du domaine.
Vous êtes un vigneron vraiment du centre Val-de-Loire, puisque vos racines, là on est dans le village de Quincy, mais on vient voir un vigneron de Reuilly. Et vous venez de Sancerre, c'est ça l'histoire ?
Oui, tout à fait, oui. Je suis originaire du Sancerrois. Mes parents sont viticulteurs à Sancerre, à Verdigny et Chaudoux. À l'époque, mon père était associé avec mon oncle en GAEC. Et lorsque j'ai fini mes études, pour me faire l'expérience, j'ai trouvé un poste qui venait de se libérer sur Quincy. Je suis venu travailler exactement en 2004, une petite dizaine d'années. Et au bout de 10 ans, il y a eu la réflexion commune avec mon associé Hélène Mardon, un des domaines les plus vieux de Quincy. C'est la 5e génération à faire du vin maintenant sur Quincy. Et la question était de savoir si elle m'aidait à m'installer pour que je poursuive mon aventure sur Quincy ou sinon j'avais l'opportunité de rentrer dans la région sancerroise. Et le fait qu'on soit très complémentaires, c'était intéressant pour nous deux de continuer à travailler ensemble. Et on a fini par m'installer.
Alors, venant de Sancerre, vous n'avez jamais eu de volonté de vous installer sur Sancerre ?
La volonté, j'aurais pu avoir l'opportunité, on aurait pu chercher à m'installer, mais après j'ai trouvé la région très sympa, j'ai eu un très bon accueil par la famille Mardon, j'ai été adopté en quelque sorte, et si bien que le fait que je me sentais bien, des opportunités plus faciles pour trouver des terrains, a fait que je me suis installé sur Quincy.
Pour situer, on est à combien, à quelle distance de Sancerre ici ?
Donc de Quincy, nous sommes à 70 km de Sancerre, donc à la fois proche et suffisamment éloigné pour pouvoir voler de ses propres ailes.
Vous aviez besoin de cette distance ?
Non, pas du tout. J'ai énormément d'amis, on se voit régulièrement, si n'est presque tous les week-ends, je pense. Donc ça me permet d'échanger, on a un joli terroir ici, j'aime bien les charrier parce que le Sauvignon, on dit qu'à Quincy, c'est le berceau du Sauvignon, donc voilà, on a une petite compétition comme ça qui se crée.
Malgré tout, donc vous venez de Sancerre, vous faites vos armes à Quincy et vos vignes sont à Reuilly. C'est difficile de vous suivre.
Oui, parce que comme je vous ai présenté au début, donc mon installation était suite à une embauche avec Hélène Mardon sur Quincy. Et pour diversifier le domaine, lors de mon installation, on a acheté des vignes sur l'appellation voisine qui est Reuilly, et ce qui a apporté une belle complémentarité sur la gamme des vins de domaine Mardon et maintenant Tabordet.
Pour situer là aussi, Reuilly et Quincy, ça se touche en fait.
Oui, alors l'appellation Quincy, elle est uniquement sur la commune de Quincy, alors que Reuilly, on est sur 6 communes, et qui sont donc les premières communes touchent la commune de Quincy, et d'autres sont à 11-12 km. Donc voilà, on est à la fois proche et on a une demi-heure d'enjambeur, ce qui reste accessible pour le travail.
Aujourd'hui, le fait d'être sur un même espace et de vinifier sur 2 appellations, vous avez des vins différents ?
Tout à fait, oui. On a vraiment 2 terroirs qui sont différents. Donc on a le vignoble de Quincy qui est sur le plateau alluvionnaire du Cher, qui est plutôt des graves avec des sols qui se réchauffent très vite et des vins très aromatiques, fruités. Et à côté de ça, on est sur les contreforts, je dirais, de l'Arnon, un terroir beaucoup plus vallonné sur Reuilly, avec des argilo-calcaires, qui fait des vins beaucoup plus riches avec plus de profondeur.
Il y a encore une heure à peine du côté de Mentoux, qu'est-ce qui distingue Mentoux de Reuilly ou Reuilly de Mentoux, vu qu'on est pas loin de vos vignes ?
Alors, Je dirais presque dans tous les vignobles du centre Loire, pour moi, les vignobles, les blancs de Reuilly, c'est ceux qui se rapprochent le plus de Mentoux-Salon. On a des reliefs qui se ressemblent, on a des terroirs qui se ressemblent. Sur Sancerre, on va avoir de la minéralité. Sur Quincy, on a des sables, on a des vins plus fleuris. Et Mentoux et Sancerre sur certains profils.
Dans le style de vin ?
Sur le style de vin, oui, tout à fait, oui.
Comment vous pourriez décrire un Reuilly type ?
Il n'y a pas de Reuilly type pour moi, hein. Je vais vous prendre là-dessus, parce que selon la façon de penser, la façon de travailler du viticulteur, moi je suis un peu plus environnement au niveau des vignes, on cherche la profondeur, on laisse le temps à la vigne de pousser, on a des vignes qui ne sont pas trop vigoureuses, justement pour gérer la vigueur et la charge de raisin, et on a des vins qui sont assez riches dans l'ensemble, donc une belle maturité, donc ce qui va nous conférer de la longueur en bouche et plus de rondeur.
À l'aveugle, on distingue facilement un Mentoux d'un Reuilly, par exemple ?
À l'aveugle,
là, je vous taquine.
À l'aveugle, il est difficile de distinguer que ce soit un Sancerre, un Reuilly, un Quincy ou un Mentoux. Il est très difficile. On arrive facilement à retrouver la note Sauvignon. Après, je veux bien essayer de piéger n'importe qui de différencier les vins Sauvignon Centre-Loire.
Donc c'est une même famille finalement.
On est une belle famille, on est solidaires les uns des autres. Et donc du coup, je pense qu'il y a plus la particularité du viticulteur bien souvent qui marque la typicité de chaque vin de terroir.
Et son approche du coup en culture et en vinification.
Voilà, mais l'approche de viticulture, la vinification, ce qui apporte la touche personnelle sur le vin, oui.
Est-ce que vous nous emmèneriez voir une de vos parcelles, peut-être pas loin d'ici ?
On en a tout près, oui, que ce soit Quincy, Reuilly, on peut aller, se rendre sur une parcelle pour aller voir. Alors on a parlé beaucoup de Sauvignon, mais on a aussi des Pinots Noirs juste à côté qu'on peut aller voir.
Ben on va y aller.
Mais on y va, on est parti.
C'est combien de temps les vignes de Reuilly ?
Oh, les plus prêtres sont à 5 minutes, d'accord. Ouais. Ouais, même pas 5 minutes, hein, 3 minutes. On va aller voir vraiment les plus prêtres.
Ouais, bah oui,
c'est Pinot Noir. Après, du coup, on est passé de l'autre côté en Sauvignon.
Vous allez voir, le panorama est plutôt chouette.
Ah ben, après, sinon, il faut aller vraiment sur le secteur de Chéry si on veut avoir un joli panorama. Ça dépend si c'est juste pour...
C'est à combien de temps d'ici ?
Ouais, il y a un quart d'heure. Ouais.
Moi, je suis prêt, hein.
Ah oui, bah, ça vaut le coup.
On fait ça, alors.
On prend la voiture.
Ouais.
Et...
Ok, on peut aussi du coup. Oui, je
L'approche que vous avez de travailler en complémentarité avec une vigneronne de Quincy, c'est fréquent ici de jouer comme ça sur les appellations du Centre-Loire ?
Sur les appellations Quincy, il y a vraiment une approche associative, de travailler ensemble qui est assez répandue. Après, au sein des domaines, c'est pas fréquent. C'est une opportunité qui a fait qu'on a travaillé ensemble et puis nos savoir-faire sont venus nous complémenter.
Donc aujourd'hui, vous avez deux domaines distincts sur deux appellations distinctes.
Voilà, oui. Dans un premier temps, on a voulu faire assez simple, de façon que ça soit administratif et puis même pour nous, gestion à la cave. Donc le domaine abordé, c'est...
Le vôtre, donc ?
Le mien. Donc il est sur les appellations Reuilly et le domaine de mon associé, Hélène Mardon, donc sur l'appellation Quincy.
Donc qu'est-ce que vous mutualisez ? Les locaux, le matériel, l'espace de vinification, le chai ?
Alors on mutualise l'ensemble en fait de notre savoir-faire l'un et l'autre déjà dans un premier temps et après on a je bénéficie du coup des bâtiments du domaine Mardon historiquement qui sont sur Quincy. Donc on mutualise les bâtiments, le matériel, le personnel aussi. Et moi je travaille autant pour elle pour la production qu'elle a travaillé pour moi pour la partie commerce. Alors même si l'un et l'autre, nous avons tous les deux une formation, que ce soit Hélène, elle a fait un petit peu de œnologie, après son BTS commerce. Moi j'ai fait de l'œnologie, j'ai fait un BTS commerce. Donc les deux côtés nous passionnent, mais il est plus simple de se professionnaliser, je dirais, dans un secteur pour être plus performant. Oui.
Vous qui venez de Sancerre au départ, quelle image vous aviez de Reuilly ?
Alors que ce soit Quincy-Ruy, pour nous à 70 km, c'était deux vignobles qu'on connaissait, c'était les petits frères Sancerrois qui étaient un petit peu plus loin, donc on en entendait parler, mais c'était des vignobles qui étaient en reconstruction, c'est des vignobles qui avaient un petit peu perdu d'élan dans les années fin 70, ils sont remontés dans les années 80, donc c'est des vignobles qui étaient en restructuration, qu'on commençait à entendre parler, et de façon plutôt bien, puisque je suis venu travailler ici.
Qu'est-ce qui vous a incité à vous installer ici? Objectivement, le prix du foncier était un élément. Cette opportunité avec Hélène Mardon, quel a été le déclencheur pour venir ici?
Dans un premier temps, je pense que le déclencheur a été l'accueil de la famille Mardon. Après, la disponibilité du foncier aussi, bien sûr, a permis de trouver des terrains plus facilement pour m'aider à m'installer.
Parce qu'aujourd'hui, sur Sancerre, c'est très compliqué, voire impossible, de trouver des vignes.
Voilà, ouais, maintenant le vignoble de Sancerre est quasi planté à la totalité, c'est très difficile de s'agrandir ou bien de trouver des domaines à racheter, mais à des tarifs défiant toute concurrence. Dans notre secteur, c'est encore accessible, donc c'est quand même plus simple de s'installer à Quincy.
Vous pouvez nous donner une échelle de prix justement entre Sancerre et Royy, les vignes que vous avez, à l'hectare?
C'est très compliqué parce que dans le Sancerrois, les tarifs sont très peu communiqués et c'est souvent bien acheté avant que les prix soient diffusés. Maintenant, nous à Quincy, les vignobles plantés arrivent autour de 80 000 euros de l'hectare.
Et aujourd'hui, donc, vos vignes sur Royy, vous avez quelle surface?
Donc actuellement, nous arrivons sur mon domaine à peu près à 6 hectares, donc divisé en 3 couleurs, 2 hectares de rouge, 2 hectares de blanc, et on a 1,5 hectare de pinot gris, et on vient de replanter 1,5 hectare de rouge. Là.
Alors ce pinot gris, c'est un petit peu une spécificité de Royy, objectivement?
Voilà, c'est une des petites choses aussi qui m'a fait m'installer plutôt sur Royy que sur Quincy, c'était la petite spécificité qui était le pinot gris. On est les seuls dans le centre-Loire à avoir ce cépage qui a sa petite particularité, aussi bien du fait qu'il a une maturité très rapide et qu'il est le premier cépage à être récolté au niveau des vendanges et qui a une palette aromatique extraordinaire.
Donc pour nous présenter Royy, il y a combien de vignerons? Ça fait quelle surface Royy? Puis qu'est-ce qu'on peut y proposer au-delà des rosés à base de pinot gris?
Donc le vignoble de Royy s'étend maintenant sur un peu moins de 300 hectares et il doit y avoir 35 viticulteurs, je pense, environ. Donc sinon en cépage, donc comme on vient de parler, on a le pinot gris, on a le pinot noir sur lequel on fait de très jolis rouges, et le sauvignon pour les blancs.
On parlait de famille tout à l'heure, on est vraiment dans la même approche que sur beaucoup d'appellations voisines.
Voilà, c'est pour ça qu'on est bien les petits frères de Sancerre, avec les mêmes cépages, avec les mêmes vins, et à proximité aussi.
Alors vous parlez de petits frères, ça veut dire qu'il y a toujours un petit complexe quand on est sur ces appellations comme Royy, comme Mantoue, comme Quincy, par rapport à Sancerre. C'est difficile de s'affirmer face à cette grande appellation?
Faut pas avoir rougi, on a souvent été tiré par le vignoble de Sancerre, et maintenant je pense qu'on est capable de voler nos propres ailes, et on concurrence bien souvent lors de dégustations les vins du Sancerrois, Mantoue et les autres. Donc nous sommes un joli vignoble qui est en train de s'agrandir, avec pas mal de jeunes viticulteurs aussi qui apportent des nouvelles façons de voir, qui permet de s'affranchir en fait du vignoble de voisin.
Est-ce que être sur une, entre guillemets, tout du moins par rapport à sa taille, sur une petite appellation comme celle de Royy, permet des choses qu'on ne pourrait pas peut-être à Sancerre pour le coup? Est-ce que ça peut être aussi une chance d'être sur une appellation plus confidentielle?
Le fait d'être sur un vignoble plus confidentiel permet de pouvoir planter un petit peu plus librement en fait les cépages qu'on veut, faire des essais. On parle de pinot gris, sauvignon, on peut faire notre encépagement sur le pinot noir à la proportion qu'on veut, faire des essais. Et pour l'instant, nous avons la chance d'être libres sur notre surface à planter actuellement. Oui.
Donc ça veut dire qu'il y a un champ des possibles et des parcelles à découvrir encore qualitatives, c'est sur Royy par exemple.
Voilà, on a encore un joli terroir, tout n'est encore pas planté, malgré que maintenant la pression foncière commence à s'affirmer et une petite compétition qui est en train de se faire entre les viticulteurs pour s'agrandir. On ira tout droit jusqu'à... Voilà, toujours tout droit, oui.
On se retrouve au cœur de vos vignes après avoir sillonné au milieu de champs de tournesol. Et là, on est un petit peu en altitude, entouré d'éoliennes, beaucoup de forêts. C'est un paysage typique d'Aurilly ?
Oui, tout à fait. Voilà, nous sommes arrivés dans l'Inde, donc la partie un petit peu plus vallonnée autour de l'Arnon. Et les dernières années, il y a eu beaucoup de champs d'éoliennes qui se sont implantés. On ressent tout de suite, même ici, un côté ventilé. Et grâce à ça, ça nous permet, nous qui sommes en bio, sur les vignes, de diminuer les traitements parce qu'on a une très belle aération au niveau des vignes et une pression de maladie beaucoup moins que dans les fonds.
C'est plutôt une chance, du coup.
Du coup, c'est une chance et c'est pour ça que c'est un terroir vraiment très apprécié et plutôt recherché.
Donc là, vous avez une parcelle de quelle taille ici ?
Donc ici, on est sur une parcelle qui fait 80 arts, donc 0,8 hectares de pinot noir. Juste à notre droite, on a une parcelle de Sauvignon qui fait 1 hectare. Et on est en train de planter une autre parcelle qui fera 1 hectare de pinot noir prochainement.
Parce qu'aujourd'hui, vous avez donc 6 hectares de vignes. Et là, vous replantez un petit peu.
Voilà, oui. On a à peine 6 hectares et on va arriver à 6,5 quand tout sera planté, oui.
Vous êtes installé avec votre domaine depuis combien de temps ?
Le début de l'aventure de mon côté a commencé en 2011.
Et vous disiez donc avec Hélène Mardon qui est installée sur Quincy, vous aviez une approche avec un regard commun autour de l'approche environnementale, c'est bien ça ?
Oui, très rapidement, quand je suis arrivé en 2004, sortant de l'école, j'avais envie de m'essayer un petit peu au bio. On a fait quelques essais avec des réussites et aussi des déboires, hein, il faut bien y passer. Hein. Du coup, ça nous avait remis un petit peu en question la partie bio et on a relancé vraiment la viticulture bio lors de mon installation en 2011 parce que c'était sur un petit domaine, c'était 4 hectares à l'époque, ce qui a vraiment pu me permettre de nous faire la main et on a converti mon domaine en 2014. 2017, nous sommes à AB sur la partie Ruy, Tabor des Lucs, et on a converti par la suite le domaine Mardon, et nous serons bio, donc semi-ici, donc 2022.
Vous en parlez comme de votre domaine, alors que c'est pas votre domaine finalement.
Voilà la petite particularité, le fait qu'on s'entende très bien, que ça soit mon domaine foncier ou ses vignes à elle. Je fais la production pour les deux, elle fait mon commerce, comme si on était mariés en quelque sorte.
C'est un travail commun. Ouais.
C'est vraiment un travail en commun. Et la vigne, c'est ma passion, alors que ça soit les miennes ou les siennes, ils sont travaillés de la même façon.
D'où vous vient cette approche environnementale qui n'est pas la norme encore dans la région ? Puisque vous disiez que dès 2004, vous aviez cette volonté de vous installer en bio. D'où ça vous vient ?
Cette démarche, elle est venue pour moi petit à petit. Hein. En 2004, c'était dans un premier temps un essai, des intérêts. Et petit à petit, c'est devenu une passion en voulant aller toujours un petit peu plus loin. Et nous sommes arrivés au bio et on est en train de se convertir sur la biodynamie pour aller encore un petit peu plus loin, voir si avec les plantes, avec la biodiversité, on peut encore essayer utiliser le moins de pesticides et le moins d'intrants possible.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette pratique ?
Dans cette pratique, je le dis souvent, mais il n'y a rien de tel qui me fait plus plaisir de remplir mon pulvé avec des plantes, avec des orties, des prêles, avec les enfants. On prépare ils appellent ça les soupes de plantes. Donc on en rigole souvent, mais c'est plus agréable de faire ça que je me souviens les souvenirs avec mon père qui nous écartait lorsqu'il remplissait le pulvérisateur. Voilà, une autre approche qui est plus saine et du coup qui devient passionnante. Donc on se renseigne de plus en plus sur l'équilibre des plantes, on cherche à comprendre pourquoi elles poussent, pourquoi elles ne poussent pas, les interactions avec la biodiversité.
C'est pas une approche, comme je disais, qui est encore la norme dans le coin. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à des personnes qui diraient « bah oui, mais dans cette région de la Loire, c'est compliqué de travailler en bio ».
Dans la région de la Loire, c'est vrai qu'on a une grosse influence pression mildiou qui est difficile. Donc il y a certaines années qui sont difficiles. Hein. Je reconnais qu'on a des rendements qui sont plus fluctuants que des conventionnels.
C'est-à-dire, pour à titre d'exemple et de comparaison.
À l'heure actuelle, on arrive à une moyenne de 40-45 hectos, ce qui est raisonnable et ce qui nous permet de faire des bons vins. Donc on est plutôt très satisfait, c'est pour ça qu'on a un équilibre sur le domaine. Hein.
Là où autrement, chez un conventionnel, on pourrait aller jusqu'à combien ?
Donc l'AOC nous permet d'aller jusqu'à 60 hecto-hectares sur l'appellation Quincy, pour le centre Loire en général. Hein.
Et vous, avec 40 hecto-hectares ? Vous arrivez à un équilibre économique.
Ouais, 45, ouais, voilà, faut pas descendre au-dessous de 40. À 45, on arrive à avoir un joli équilibre. Du fait qu'on a des clients qui apprécient nos vins, on les valorise à juste titre, et ce qui fait notre positionnement à l'heure actuelle.
Donc ça vous apporte, je dirais, au quotidien des satisfactions, cette approche ?
Tous les jours, ça nous apporte une satisfaction de voir la vigne pousser de façon la plus naturelle. On fait des essais dans notre jardin, sur des plantes, voir les équilibres, et après on essaie de les appliquer. C'est beaucoup plus difficile de voir le rendu sur les vignes, sur une culture intensive. À la fois, on est sur une culture pérenne qui répond sur plusieurs années.
Vous avez un domaine de 6 hectares, bientôt 6 hectares et demi. Est-ce que vous pensez que ce modèle, il serait juxtaposable sur des domaines 2, 3, 4, 5 fois plus grand ?
Mon domaine fait 6 hectares, mais avec les 16 hectares du domaine Marnon, on arrive à 22 hectares. Donc...
Et vous avez la même approche.
Et on a la même approche, et on sait tout travailler. En fait, on raisonne sur 22 hectares au quotidien. Donc on n'est pas 6 et 16, c'est bien 22 hectares qu'on cultive au quotidien. Donc oui, ça fonctionne. Ouais.
Ça demande beaucoup de réactivité, beaucoup de personnel. Il y a quand même des contraintes aussi avec cette approche.
La clé, je dirais, du bio, c'est la réactivité. Donc sur le domaine, on a su saisir l'occasion, parce qu'il y a eu beaucoup de plans d'aide, de subventions pour acheter du matériel, du travail du sol, pour aller sur cette approche environnementale. Donc depuis de nombreuses années, on a fait l'effort d'investir régulièrement, et maintenant on est arrivé justement avec un équipement qui nous permet d'être très réactif et de pouvoir répondre justement rapidement aux besoins de la vigne.
Ça change beaucoup de choses dans les raisins que vous récoltez ?
Sur les raisins que nous récoltons, ça nous permet d'avoir un équilibre, un peu plus de profondeur, de la concentration, je dirais. On est sur des rendements qui sont un petit peu plus faibles, et la vigne est un petit peu plus... va chercher plus en profondeur. C'est ce qu'on essaye, entre guillemets, d'y faire. Hein. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes partis sur la biodynamie, justement pour avoir un équilibre un petit peu plus au niveau de la plante, et avoir une plante qui s'autorégule et qui réponde mieux aux aléas climatiques.
Cette évolution, elle vous est venue au gré d'échanges, au gré de vin que vous avez goûté, vous avez des modèles un petit peu peut-être qui vous a inspiré pour suivre cette voie ?
C'est suite à des échanges. J'ai un collègue sur Quincy qui est en bio et qui m'avait dit: lorsque tu passeras en bio, on se lancera tous les deux en biodynamie.
Peut-être le nommer.
Donc Vincent Nivet, hein, qui est un ami, puis sur lequel on échange beaucoup, puis on évolue ensemble sur la biodynamie. C'est lui qui m'a attiré un petit peu là-dessus, et c'est vrai qu'après c'est devenu une passion et on travaille ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est mon cousin qui est donc le domaine de mes parents à Sancerre, hein. Sans communiquer, on avance à la même vitesse, de la même façon en fait. Il a exactement les mêmes approches que moi sur les vignes, et comme quoi on doit être en quelque sorte connecté, parce que on fait la même chose sans parler à l'avance.
Pour des résultats où vous trouvez une satisfaction tous les deux.
Oui, ben en général, on échange lors de repas de Noël de famille, et puis c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on a fait, au quel point on est vraiment avancé. On en rigole parce que on demande les certifications à peu près en même temps, on a les mêmes façons de faire et on communique pas.
C'était quelque chose d'envisageable il y a 20 ans pour vous, ça, ces approches que vous avez aujourd'hui ?
Il y a 20 ans, c'était pour moi très difficile de l'envisager. Hein. Je ne pensais pas que mes parents passeraient au bio.
Ça correspond à leur génération aussi.
C'était tout à fait leur génération. C'est ce qu'on leur avait demandé de faire, de produire. Hein. C'était l'époque qui voulait ce système-là. Hein. Et pour moi, le fait de venir sur Quincy, travailler tout seul, m'a aidé justement à aller... plus vite dans ce sens-là.
Vous sous-entendez que si vous n'étiez pas venu sur Quincy, sur Roilly, là où nous sommes, vous n'auriez peut-être pas eu la même facilité à évoluer dans vos pratiques ?
Bien souvent, quand on est seul, on recherche un petit peu plus loin, on se pose un petit peu plus de questions, et au lieu de se laisser guider un petit peu par nos parents ou même avec ses frères, quoi. Voilà, ça permet d'aller un petit peu plus au fond des choses et de rechercher par soi-même.
Vous aviez besoin d'un peu de distance finalement, quelque part?
Peut-être, je pense que j'avais un besoin de m'émanciper un petit peu tout seul, oui, c'est possible.
On est là juste devant des terres de Reuilly. Est-ce que ce sont des terres types de Reuilly, là? Parce que, comme je vous le disais, on était il y a une heure et demie encore sur Mentou. Là, on voit que ce n'est pas les mêmes structures de sol, quand même. Il y a des petites différences.
On est vraiment sur les sols types de Reuilly. Donc, on est sur les hauts plateaux, donc on va avoir des graves. Et en dessous, on va trouver des argiles. Et dès qu'on va arriver dans les pentes, on aura les argiles et argilo-calcaires. Donc, sur le dessus, des sols très séchants, qui posent souvent problème lors des périodes de sécheresse sur Quincy. Et en fonction des sols au-dessous, c'est là qu'on voit la vigne comment elle réagit. Si elle arrive à aller chercher les argiles, elle s'en sort bien. Ou qu'il y a des couches de grave un peu plus profonde, la vigne souffre un petit peu plus davantage.
Bon, ça fait un peu plus sablonneux ici, j'ai l'impression.
Voilà, alors les graves sont des sables qui sont plus ou moins recouverts de petits cailloux. Hein. Voilà, ouais, des gravillons de Loire en quelque sorte, hein, de sable.
Et ça apporte une structure de vin différente si on compare avec Mentou pour le coup?
Sur les rouges, sur ces sols-là, oui, on aura des sols un petit peu plus légers, malgré que dès que la vigne va dans l'argile, on rejoint un petit peu les Mentou. Hein.
Donc là, on est sur un de vos spots, entre guillemets, une de vos parcelles. Vous en avez combien comme ça, des aires sur vos 6 hectares?
Mes 6 hectares sont à peu près divisés en deux îlots, donc un îlot sur Chéry, sur la commune de Chéry où nous sommes actuellement, il y a 3 hectares et demi sur les 6, et l'autre îlot est sur la commune de Preuilly.
Et vous tenez à voir ces différences de secteur par rapport aux aléas qu'on peut rencontrer, que vous rencontrez les vignerons de plus en plus fréquemment?
Oui, tout à fait. Hein. C'est très intéressant d'avoir des vignes un petit peu écartées en cas d'aléas climatiques. Alors, on pense surtout à la grêle. Hein. Donc, plus les vignes sont éloignées, moins on a de risque que les deux côtés soient grêlés. Après, au niveau gel, là où nous sommes en hauteur, on a moins de risque gel en général. Hein. Le vignoble est plus aéré. On est sur un spot assez intéressant, point de vue météo.
Ces paysages aussi très ouverts, très ventilés, c'est un petit peu aussi un marqueur de Reuilly.
Le fait qu'il soit vallonné, c'est un des marqueurs de Reuilly. Hein. Toutes les vignobles en coteaux sont ventilés comme ça, et ça me permet une bonne aération pour la vigne.
Et alors, dans votre gamme de vins, vous avez combien de cuvées aujourd'hui?
Alors, on a essentiellement 3 cuvées. Donc, nous sommes un petit peu en construction sur certaines cuvées. Hein. On est en train d'en faire des nouvelles. Donc, on a les 3 couleurs de base, rouge, blanc et pinot gris. On parle pas de rosé, mais pinot gris. Hein. Et après, sur le blanc, nous sommes en train d'élaborer une nouvelle cuvée, justement, pour répondre un petit peu à la clientèle, à d'autres demandes, à des choses différentes.
Peut-être le moment d'aller les goûter, ces vins.
Tout à fait, on va passer à la cave maintenant.
Cross the roaming waters away. 27 years since last I've seen you. Away, we're bound away across the wide Missouri. Across the wide Missouri. Across the wide Missouri. Away, we're bound away.
On laisse vos vignes pour se retrouver dans votre chai.
On est dans les lieux historiques du domaine Marnon, cinquième génération à faire du vin. Chaque génération a construit son petit morceau de bâtiment, donc il est très bien imbriqué dans le village. Il ne se voit pas du tout du bord de la route. On est sur la partie ici, la plus récente, qui est la cuverie, qui a été construite justement en 2011. Et on va remonter dans les bâtiments les plus anciens pour aller au caveau de dégustation, qui est tout au bout, sous la maison.
Et vous n'avez pas de cuverie spécifique, ça fait partie de cet ensemble.
Voilà, alors malgré tout, toute la partie basse est plus destinée à la vinification au blanc, la partie haute, rouge, qui est plus à proximité des pressoirs, donc plutôt, je dirais, Tabordé en haut, Mardon en bas. Voilà, pour identifier au mieux.
Donc beaucoup d'inox, un tout petit peu de fibre, pas du tout de bois.
Voilà, on a commandé un full qui va arriver pour les vendanges, les premiers essais. En bas, on a toutes les cuves grès pour les cuvées sur Quincy, type jarre. Et après, on a le fût à barrique pour les rouges qui est dans les petits caveaux. Alors attention aux têtes parce que les portes sont pas très hautes. Donc la partie fût.
Donc là, on est sur une cave souterraine.
Cave souterraine, sous la maison, là, une des plus anciennes. Et on se retrouve au bord de la route qui donne accès au domaine.
C'est toute votre gamme.
Oui, voilà, toute la gamme avec les Quincy et les Reuilly. Voilà, donc on a un Quincy, Quincy tradition. Après, on a une vieille vigne, notre cuvée en jarre. Après, Reuilly blanc. Alors élevé pour l'instant en fût, chêne, pinot gris et puis reuilly rouge. Alors je dis pour l'instant, on a appelé parenthèse parce qu'on est en fût de chêne et on est en train de travailler plutôt sur un assemblage acacia grès. Voilà. Avec Hélène, comme je vous dis, la petite touche féminine, elle est là, c'est que moi je suis pas très fan non plus des sauvignons boisés, Hélène encore moins, et du coup c'est pour ça que la touche, la cuvée pour l'instant, on a un très joli bois mais qui marque un peu trop, donc on va changer d'essence, de taille de fût, on travaille là-dessus. On a deux blancs,
okay.
un gris et un rouge.
D'accord. Particularité de Reuilly, les rosés ne se font pas avec du pinot noir mais avec du Pinot Gris.
Donc pour bien replacer, Reuilly, donc on a le droit de faire sur l'appellation les trois couleurs, donc en blanc avec le Sauvignon, en rouge avec les Pinot Noirs, et le rosé, on a le droit d'utiliser les deux cépages, donc le Pinot Gris et le Pinot Noir. Libre choix aux viticulteurs de le faire en assemblage, ou 100% Pinot Gris, 100% Pinot Noir, chacun fait comme il veut de ce côté-là. Après, chez nous, on a trouvé que la petite particularité du Pinot Gris en 100% était très intéressante, et c'est pour ça qu'on l'exploite dans ce sens-là. On ne met plus du tout le pinot noir et ça va faire un vin très clair.
Pourquoi des pinots gris à Reuilly ?
Moi-même, je n'ai même pas l'explication. Ça date de l'appellation. Donc avant 36, je ne peux pas vous dire d'où le pinot gris est atterri sur Reuilly.
Et alors pourquoi du coup vous avez décidé de les faire en rosé ? Qu'est-ce que ça apporte de plus que n'apporterait pas le pinot noir ?
Alors, ils ont été classés lors de l'appellation, dans l'appellation Reuilly Rosé. Donc, à l'époque, je pense qu'ils emmenaient de la fraîcheur avec le pinot noir. Et petit à petit, les jeunes vignerons ont remarqué que le pinot gris seul avait une palette aromatique différente du Sauvignon. Donc, ça apporte un deuxième vin, un complément de gamme. Et en plus, le pinot gris seul vieillit beaucoup mieux dans le temps, en termes de millésime, qu'un pinot noir rosé.
Vous êtes nombreux à faire des rosés comme ça à Reuilly avec des pinot gris et rien que du pinot gris ?
Maintenant, de plus en plus, les rosés sur Reuilly sont faits à base de pinot gris et voire de plus en plus 100% pinot gris. C'est vraiment une petite particularité qu'on souhaite faire connaître de plus en plus.
Ça se fait pour se distinguer ou vraiment parce qu'il y a des qualités particulières ?
Non, ça se fait vraiment parce qu'il y a des particularités différentes d'un pinot noir. On parle de fraîcheur, une capacité au vieillissement bien meilleure que les rosés de pinot noir. Et le premier point fort, c'est que le pinot gris, il est planté dès le début pour faire du rosé et non pas un tri de pinot noir qui serait moins bon et mis de côté, quoi.
Donc en termes de taille, j'imagine, ça, il y a des modifications.
Dès la plantation de la vigne, il va être destiné à faire un vin et du coup en pinot gris, et ce qui fait sa qualité.
La bouteille nous attend, nous sommes prêts à en découdre.
Et ben on y va, on va déguster le pinot gris, donc c'est le millésime 2021.
Donc là, une couleur qui est particulièrement claire. Alors, vous êtes atteint par les modes des rosés de Provence et vous recherchez particulièrement cette couleur, ou c'est par rapport à ce côté gris, c'est dans la méthode que vous utilisez que vous arrivez à ce résultat ?
C'est un choix volontaire en fait de la couleur. On a pressé, c'est un pressurage direct des pinot gris, un cépage qui a juste la pellicule rosée, donc qui apporte très peu de couleur au jus. Et on a voulu s'affranchir de la couleur rosée sur nos pinot gris pour plus avoir le côté péjoratif de la dégustation et l'effet millésime. Et on a souvent, nous, vu en dégustation que des pinot gris avec 2-3 sondages étaient très intéressants à la dégustation. Donc on trouve dommage que les clients s'arrêtent sur l'effet millésime parce que c'est un rosé.
Donc là, ça tient autant aux qualités intrinsèques du cépage pinot gris que de la vinification derrière.
Oui, tout à fait. Là-dessus, la vinification, maintenant, elle est faite de façon à ce que les vins se gardent dans le temps. Et on a une belle fraîcheur et c'est des vins qui se gardent bien après 2 ans d'âge.
Malgré leur couleur qui peut sembler... oui, on est presque sur une couleur... on n'est même pas sur du blanc, là. C'est particulièrement clair.
Oui, tout à fait. Donc, on est juste sur un blanc légèrement taché. Donc, on parle de gris, voilà, selon les reflets. Là, il est mis en bouteille. Donc, vous pourrez le trouver chez nous en bouteille blanche ou voir en bouteille verte à la vente.
C'est impressionnant de... C'est évanescent comme vin, presque. C'est...
Oui. Souvent, on retrouve en Alsace, les pinots gris sont blancs. Hein.
Et alors là, ce qui est surprenant, je trouve, en goûtant ce vin, c'est que malgré sa couleur, il a une vraie persistance, une vraie longueur, une vraie profondeur aussi. D'où peut-être la garde qu'on peut envisager avec ce vin.
Tout à fait. C'est un millésime qui a un cycle de... qui a une fin de cycle très rapide, et ce qui confère rondeur et une palette aromatique avec du sucre.
Vous en faites depuis longtemps de cette cuvée ou...
Dès le début de mon installation, depuis 2011, on a commencé à faire des pinot gris.
J'imagine que c'est des vins qui plaisent particulièrement aujourd'hui, ce type de vin.
C'est des vins qui plaisent, mais qui sont quand même difficiles à vendre hors région, parce qu'il faut les faire connaître. Les gens connaissent les rosés, les pinot gris un petit peu moins. Donc localement, on connaît bien les gris de Reuilly. Après, en France, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas forcément ce qui est recherché. On vient pas chercher des rosés dans le Centre-Loire.
Il faut les vendre un petit peu.
Oui, voilà. Il faut quand même aider, les pousser à les vendre. C'est des très bons vins qui sont à présenter en termes de gastronomie. Ils viennent complémenter un petit peu la gamme de nos blancs. Ils s'associent parfaitement avec tout ce qui est plat asiatique ou voire même tagine, des plats épicés, des choses où d'habitude, on ne va pas avec nos sauvignons, quoi. Et ça fonctionne même, moi, je trouve très bien avec les foie gras parce qu'on a une belle sucrosité et pour autant, on reste avec un vin sec. Et en entrée de repas, voilà, on a un vin qui est plus digeste.
6 hectares sur Reuilly pour votre domaine, c'est un équilibre fragile au niveau économique.
6 hectares, ça pourrait aller si on était sur un seul cépage. C'est vrai que là, sur 3 cépages, ça diversifie en cuvée, en couleur, et du coup, on est souvent un petit peu juste sur des cuvées. On tarif, je dirais, qu'on les vend, on arrive à trouver quand même un équilibre malgré les rendements modestes qu'on fait. Oui.
Quels sont vos tarifs pour le coup ?
Et par cave, donc sur le pinot gris qu'on a goûté en premier, on est à 12 euros, 12 également sur les sauvignons blancs, et sur les pinots noirs qu'on va goûter à la fin, nous sommes à 13,50.
Oui, donc on reste sur des prix en bio en particulier quand même qui sont plutôt qui sont pas super élevés.
On cherche, c'est nous viticulteurs, on cherche à ce que les vins soient aussi accessibles, que ça, on est sur des vins de plaisir. Et je trouve dommage de les vendre cher. Ben voilà, la clientèle. C'est toujours compliqué ça, les tarifs. Hein. Les cavistes, ils trouvent qu'on vend jamais assez cher à la cave.
Et vous expliquiez que vous vouliez évoluer vers du grès, vers des bois d'acacias. Vous avez envie de jouer sur les contenants comme ça à l'avenir ?
Oui, il y a un intérêt sur les contenants. Chaque contenant apporte sa petite particularité. Le grès nous permet de ramener un petit peu de minéralité sur nos vins, voire de la fraîcheur. L'acacia, on a un élevage donc en bois, donc une micro-oxygénation sans apporter de côté tannique. Donc voilà, pour moi, il y a un intérêt sur l'assemblage des deux. Et au lieu de passer sur des contenants en fût de 128 litres, on va passer sur des volumes tonnes 500 litres. 2018, bon, c'était voilà, c'est des vins qui étaient à 15, donc une belle sucrosité, une belle puissance.
Oui, parce que là, on change de millésime.
Oui, voilà, on est sur le millésime 2018, hein, rien à voir par rapport au premier, on était sur des 21. Mais pour autant, le millésime fait qu'il porte bien le bois et se conserve dans le temps sans évoluer.
Hein. Ah oui, on joue dans une autre catégorie, là, quand même. Hein. C'est... Il y a plus de volume.
Oui, plus de volume, hein, oui.
Les raisins proviennent
de la même parcelle, de Chéry, oui, voilà, oui.
Là, c'est juste l'élevage qui...
C'est
qui
l'élevage, mais vraiment l'effet millésime, hein, déjà, le...
Oui,
le
aussi,
même
sur
le...
Ouais, ouais.
En 2021, là, on est plutôt sur un millésime de fraîcheur, et là, on était sur des millésimes solaires sucrés. Hein.
Est-ce que la discrétion que j'évoquais sur les deux premiers vins qu'on a goûtés, là, on est sur un vin qui s'exprime, qui parle d'un point de vue olfactif, déjà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut leur laisser vraiment du temps, que vous évoquiez aussi tout à l'heure, ou ça correspond plus à l'effet millésime ?
Je pense que là-dessus, le plus gros marqueur, c'est l'effet millésime 2018, vraiment très solaire, avec une palette aromatique qui est un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Hein. On est plutôt sur des notes de fruits mûrs, voire mangue, que d'habitude, on est plutôt sur des notes fleurs blanches, poires, des choses comme ça, poires fraîches. Et après, avec l'effet dans le temps, les sauvignons ont une légère maturité qui vont évoluer doucement sur une palette aromatique de ce genre-là en général. Alors chez nous, qui vont se développer plutôt sur les notes aromatiques sucrées, plutôt que côté variétal, végétal, buis qu'on peut trouver péjorativement sur certains sauvignons.
On change de dimension avec ce vin, je trouve vraiment, on est dans un autre univers aussi.
Et on... Un peu parenthèse.
Ouais, mais c'est une parenthèse plutôt enchantée, je trouve. Hein.
Voilà, ouais. Donc on a mis longtemps, on a eu un grand moment de réflexion pour mettre un nom sur cette cuvée-là. Et nous-mêmes, à la dégustation, on trouvait qu'elle sortait un petit peu de notre univers et du reste de la gamme. Et vu qu'elle est en construction, on l'a appelée parenthèse. La quatrième vin, donc le Ruy Rouge, on est sur le millésime 2020. Donc le cépage Pinot Noir, vendangé à la main, avec une vinification, macération de 4 semaines, et après élevé en fût de chêne pendant 9 mois. Donc mis en bouteille, ni collé, ni filtré, comme ça. Alors, encore une fois, là on est sur le millésime 2020, et pour moi ils sont encore un petit peu jeunes, et puis ils vont vraiment commencer à s'exprimer à partir de maintenant. Ouais. Souvent, quand on en a plus à vendre, c'est là qu'il commence à être bon, quoi. Malheureusement. Donc, il leur faudrait un an de bouteille pour vraiment s'exprimer correctement. Ouais. Après, nous, on essaie souvent de mettre un petit peu de grappe entière, ce qui permet d'apporter la grappe entière sur les vinifications en rouge. Le temps de la macération permet d'apporter un petit peu de fraîcheur, de mentholé, quoi, si elle a la bonne maturité et si on n'extrait pas le côté végétal, oui. Donc il y a ce côté intéressant si on arrive à avoir une bonne maturité de la grappe.
Il y a un beau volume de bouche, il y a du croquant je trouve dans ce vin.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est la recherche en fait qu'on fait sur nos vins rouges, c'est rester sur le fruit, sur le côté croquant comme ça, mais tout en ayant un élevage légèrement en fût pour le soutenir et que ça reste dans le temps. Il n'y a pas des sols pour faire une grosse puissance tannique, mais par contre, il faut que ça soit légèrement soutenu et on a une couleur qui est jolie, qui est agréable, mais pas non plus sur le foncé. Hein.
Bon, mais c'est un joli panorama de votre domaine. Est-ce que les expérimentations que vous allez mener sur les blancs, vous voulez les mener sur les rouges aussi, au niveau des contenants ?
Alors, pour l'instant, on est en termes de volume, on peine tous les ans à boucler. On a une grosse demande sur les rouges, donc on est en train de faire des nouvelles plantations. Et suite à ces plantations-là, on a encore plein d'idées, oui.
Donc, si on revient dans quelques années, il y aura sans doute d'autres cuvées.
Il y a une grande chance qu'il y aura des nouvelles cuvées, oui.
Alors, on reviendra.
Avec plaisir.
Luc Tabordet, domaine Tabordet, vigneron 100% Centre-Loire. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Mae Kubo, musique Enchenendoa. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.